Tous les êtres humains naissent libres et égaux.
Bonjour auditeurs de Nantes ou d'ailleurs. Bienvenue sur la planète LDH section nantaise pour parler de la loi immigration. Aujourd'hui, nous retrouverons quelques militants qui se sont exprimés lors des dernières manifestations et nous entendrons Marie-Christine Vergia, vice-présidente nationale de la LDH. Mais commençons avec Christine, notre ligueuse nantaise, qui a étudié de près tous les articles de cette loi. Bonjour Christine. Alors dans un premier temps, pouvez-vous nous faire un petit récapitulatif du descriptif de cette loi ?
Bonjour. Tout commence le 19 décembre, date à laquelle le Parlement a voté la loi. Elle comportait à ce moment-là 86 articles. Après avis du Conseil constitutionnel le 25 janvier, elle n'en comporte plus que 51 qui ont été validés. Elle comporte plusieurs volets, la lutte contre l'immigration irrégulière, le travail, l'intégration, l'éloignement, l'asile, le contentieux et des dispositions relatives au territoire d'outre-mer. Emmanuel Macron, qui était en voyage à New Delhi, l'a promulguée le 26 janvier. Elle a été publiée au journal officiel dès le lendemain. Cette loi comporte donc, après les amendements de la droite sénatoriale, quasiment le double d'articles au regard de ceux contenus dans le projet initial du gouvernement, à savoir 27.
Alors la LDH, qui a fait appel avec d'autres organisations au rassemblement contre ce projet de loi, a-t-elle vécu la censure partielle par le Conseil constitutionnel comme un soulagement ?
Le Conseil constitutionnel a effectivement censuré 35 articles. Mais à l'étude de cette censure, le soulagement ne peut être qu'éphémère ou en trompe-l'œil. En effet, ces articles, pour 32 d'entre eux, ne l'ont été que sur la forme. C'est ce qu'on appelle les fameux cavaliers législatifs, c'est-à-dire en lien insuffisant avec le projet de loi initial. D'où plusieurs craintes. Celle de voir venir devant le Parlement ces articles qui ont été expurgés de la loi pour une question de forme, et c'est déjà une réalité. Puisque le 1er février, le groupe centriste du Sénat a déposé une proposition de loi reprenant 16 des mesures censurée, et le groupe des Républicains l'envisage également. Quant à la deuxième inquiétude, cela concerne des mesures qui, sans avoir été jugées anticonstitutionnelles, portent néanmoins atteinte aux droits et libertés des personnes exilées.
En quoi c'est important pour vous de venir à cette manif contre la loi immigration ?
Pour moi, parce que pour montrer que le problème, c'est pas l'immigration. Le problème, c'est qu'on tape toujours en fait sur les plus faibles. Quand il s'agit du chômage, on tape sur les chômeurs. Le problème de l'immigration, je pense que le problème, il n'est pas des travailleurs immigrés. On sait que les travailleurs immigrés qui travaillent en France, ils rapportent aussi de l'argent. Je crois que c'est à hauteur de 60 milliards en termes de cotisation, donc c'est pas un coup, c'est une chance. Et on sait aussi très bien qu'on est bien content de trouver les travailleurs immigrés, par exemple sur Paris, sur les chantiers, enfin beaucoup de chantiers. Et voilà, donc c'est une injustice et c'est important d'être là.
Je vais dire que j'ai l'impression qu'on va vers des lois qui sont extrêmement racistes. Qu'on est en train de perdre, si tant est qu'il y ait des valeurs communes à la France, qu'on est complètement en train de les perdre, que ça me met très très en colère et que c'est très très grave ce qui est en train de se passer. On est en train de toucher à des fondamentaux d'humanité et c'est insupportable.
Pourquoi vous êtes ici aujourd'hui ?
Parce qu'on pense que la loi, c'est... Nous, on s'en particulièrement concernés, on est un couple franco-mexicain. Et donc on sait que ça va rendre plus compliqué toutes les démarches. Et même
les démarches sont déjà compliquées.
Les démarches sont déjà hyper compliquées. En fait, continuer à mettre des bâtons dans les roues contre l'immigration et pour tout ça, c'est vraiment rendre plus complexe toute la situation en France. Donc voilà, c'est pour ça qu'on est venu.
Alors pourquoi je suis là ? En fait, pourquoi je suis là ? Bah, tout simplement parce que cette loi, elle est injuste. Et à mon avis, on aurait dû bouger depuis... Je pense qu'il y a beaucoup de camarades qui ne sont pas là. On aurait dû bouger depuis très longtemps parce que, voilà, on a un camarade qui travaille à la CAF et il nous a dit que, en fait, les immigrés, donc les gens qu'on met... au rang de la société là, par cette loi injuste, ils ne touchent pas déjà la prime d'activité. Il y a plein de choses auxquelles ils n'ont pas le droit. Et déjà, ça fait très longtemps qu'on aurait dû se bouger. Parce qu'on peut avoir un collègue qui est issu de l'immigration et qui n'a pas les mêmes droits que nous. Et déjà, rien que là-dessus, on aurait dû bouger depuis longtemps. Et pourquoi je suis là aujourd'hui ? Parce que on doit être là, on se doit être là, quoi. Tout simplement. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix.
En quoi c'est important pour nous ? C'est important pour nous parce qu'on ne peut pas considérer que l'on mette à la rue des personnes aussi facilement que ça. On ne peut pas considérer que des personnes n'aient pas le même statut identitaire. On ne peut pas considérer qu'on ferme les yeux face aux vagues d'immigration venant d'Afrique ou d'ailleurs. Ils sont en pleine difficulté. On a un devoir, dans des pays quand même riches, malgré la crise, de les accueillir.
D'abord en tant que militant LDH, mais aussi parce que je suis impliqué dans la défense des droits des étrangers. Alors d'abord, par l'intermédiaire de la LDH, puisque je suis dans le groupe de travail droits des étrangers, et aussi à titre personnel, parce que j'héberge des migrants. Voilà. Donc c'est une cause qui me tient à cœur. Voilà, que je défends à 100% parce que c'est la liberté de l'humanité que je suis. C'est con, ça me fout des mots.
Bah ouais, moi je comprends.
Parce que quand je vois tout ce qui se passe, tout ce qui monte, ça m'affole. Et voilà, quoi, donc le moindre des choses c'était d'être là aujourd'hui.
Gérald Darmanin a déclaré « C'est quand même 50 articles, dont les 26 proposés par le gouvernement. Jamais le gouvernement n'aura eu autant de moyens. » Alors, quels sont ces moyens ?
Dès le 26 janvier, Gérald Darmanin a publié ses instructions au préfet et indiqué les priorités à mettre en œuvre quant à la politique migratoire du gouvernement. Parmi ces instructions, par exemple, il demande de réexaminer toutes les situations des étrangers dont l'éloignement n'était pas possible jusqu'à présent en raison des protections prévues par l'ancienne loi et qui représentent toujours une menace à l'ordre public avec pour consigne de les placer en centre de rétention administratif. Une autre mesure, par contre, concerne la régularisation des étrangers travaillant dans les métiers en tension, dont on va peut-être pouvoir parler tout de suite.
Tout à fait, évoquons le sujet maintenant.
Oui, eh bien, effectivement, parlons-en de ces fameux métiers en tension. La première observation, c'est que dans l'article est indiqué que les conditions qui vont suivre ne sont pas opposables à l'autorité administrative. Alors, ces conditions, quelles sont-elles ? Le séjour doit être ininterrompu depuis 3 ans sur le territoire français. L'exercice d'un métier figurant sur la liste des métiers en tension, 12 fiches de paix sur les derniers 24 mois et l'absence de casier judiciaire. Mais il faut tout de suite noter que sont exclues des personnes pouvant demander un titre de séjour à ce titre, les demandeurs d'asile, les étudiants et les travailleurs temporaires.
Et alors justement, quel va être le rôle des préfets ?
Les préfets, ils devront apprécier un certain nombre d'autres éléments, la réalité et la nature de l'activité professionnelle de l'étranger, son insertion sociale et professionnelle, son respect de l'ordre public, son intégration dans la société française et son adhésion au mode de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu'aux principes de la République. En conclusion, ça donne un pouvoir énorme d'appréciation aux préfets qui pourront le faire différemment d'une préfecture à l'autre ou d'une période à l'autre ou d'une personne à l'autre. Enfin, pour terminer, il faut savoir que ce dispositif n'est prévu que jusqu'à la fin du décembre 2026.
Et alors, qu'est-ce qui va se passer après 2026 ?
On ne sait pas. Et pour en revenir aux instructions données au préfet par le ministre, cette régularisation des étrangers travaillant en métier en tension leur permettront de récolter des informations pour pouvoir diligenter des contrôles spécifiques auprès des employeurs les employant. Un autre type d'instruction concerne les étrangers qu'ils devront expulser, ceux qui, en récidive de fait, passibles de 3 ans de prison pour des délits. Passible, cela veut dire avant même qu'une peine soit prononcée. Quant au juge des libertés, qui vérifie si le placement dans les centres de rétention respecte les droits des personnes, il ne pourra plus les joindre qu'au bout de 4 jours au lieu de 48 heures. On continue dans les mesures prescrites. Les demandeurs d'asile qui soit présenteront une menace à l'ordre public, cette menace à l'ordre public, on la retrouve pratiquement dans tous les articles, ou présentant un risque de fuite, pourront être placés en centre de rétention. Les départements ne seront plus obligés de prendre en charge un ancien mineur non accompagné qui aura fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, alors que c'était dans la dernière loi de protection de l'enfance une obligation assignée au département. Si on reprend l'exemple de l'éloignement des étrangers sous toutes ses formes par la levée des protections qui y étaient attachées précédemment, mais tout cela se fait au mépris du droit et du respect de la vie familiale. Si on considère les mesures prises à l'encontre des mineurs non accompagnés, eh bien c'est incompatible avec le respect des droits de l'enfant.
Après tout ce que vous venez de nous dire, on se demande si la France n'est pas en train d'atteindre un point de bascule avec sa politique migratoire.
En fait, je vais vous le dire, cette loi, c'est la plus répressive depuis 1945. Selon le titre d'un mensuel, cette loi est une machine à expulser et à fabriquer des sans-papiers. Elle véhicule une vision xénophobe de l'étranger qui est tour à tour délinquant, inintégrable, fraudeur, dangereux ou tout à la fois. Les mesures répressives ont été considérablement durcies, les conditions d'obtention ou de renouvellement d'un titre de séjour également. Mais il faut aussi se poser la question sur la manière dont cette loi a été adoptée. Il est notoire que les parlementaires, les ministres, le président de la République ont sciemment fait adopter des dispositions qu'ils savaient contraires à la Constitution. Cela a permis quoi ? À l'extrême droite de revendiquer une victoire idéologique sur les mesures adoptées. Et avec elles, le parti, les Républicains, ont contesté l'état de droit et ses contre-pouvoirs pour remettre à l'ordre du jour leur projet de réforme constitutionnelle qui vise à quoi ? Imposer une préférence nationale et inverser la hiérarchie des normes juridiques, c'est-à-dire, entre autres, se débarrasser, par exemple, de la Convention européenne des droits de l'homme. Pour terminer, il ne faut pas perdre de vue également que la politique migratoire n'est pas simplement une politique élaborée au niveau national, mais qu'elle s'articule avec les textes adoptés au niveau de l'Europe. À la fin de l'année, les partenaires européens se sont mis enfin d'accord sur le pacte européen sur les migrations et l'asile. À son sujet, Gérald Darmanin souligne l'avancée significative et inédite des nouvelles mesures qui vont être mises en place, un renforcement des contrôles de plus en plus stricts et le déplacement de la demande d'asile aux frontières de l'Europe.
Aujourd'hui, fête de l'égalité organisée par la Ligue des droits de l'homme, nous avons la chance de rencontrer Marie-Christine Vergia, vice-présidente de la LDH, pour lui poser quelques questions. Bonjour Marie-Christine. Selon vous, en quoi la loi immigration est une atteinte aux droits et aux libertés ?
Alors, on a appelé cette loi la loi de la honte, parce que jamais depuis une quarantaine d'années, une loi n'avait été autant attentatrice aux droits et libertés des étrangers. Et elle porte atteinte aux droits de tous les étrangers, quel que soit leur statut, y compris quand ils sont en situation dite régulière. Notamment, il y a un certain nombre de mesures qui visent les personnes protégées, qu'on appelle protégés, qui ne sont d'ailleurs pas totalement protégés, parce que contrairement à ce que racontait le président de la République, on pouvait les expulser, mais elles vont pouvoir l'être, là. Alors, c'est notamment les conjoints de Français, les parents d'enfants français, les personnes qui vivent sur le territoire depuis très longtemps. Alors, pour faire simple, celles qui ont une carte de résidence ou même qui ont renouvelé leur carte de résidence. Et donc, elles pourront être expulsées, non plus sous contrôle judiciaire, enfin, sur décision judiciaire, mais sur simple décision administrative du préfet, en cas de non-respect des principes républicains et menace à l'ordre public. Dans les deux cas, c'est des notions très vagues et qui ne peuvent qu'être qu'attentatoires au droit, parce que une fois qu'on aura expulsé les personnes, ça va être très difficile de les faire revenir. D'autant plus qu'une personne expulsée, elle aura une interdiction de revenir sur le territoire et que celles-ci sont de plus en plus longues. Après, il y a des menaces qui pèsent sur le droit d'asile, puisqu'on accélère les procédures, on décentralise, soi-disant pour être au plus près des citoyens, mais en réalité, on sait que ça ne va pas le faire, si je veux dire comme ça, parce qu'on met en cause le principe de collégialité des juges. Et il va y avoir aussi une question d'interprétariat. Dans la région parisienne, il y a quand même un potentiel d'interprétariat qui concerne quasiment tous les pays du monde, toutes les langues du monde. Alors que dès lors qu'on décentralise dans les différentes régions, il va y avoir des inégalités, pour le coup, des étrangers, selon la langue dont ils parlent. Et quand on est devant l'OFPRA ou la CNDA, la Commission nationale du droit d'asile, si c'est déjà difficile d'expliquer ce que l'on a subi comme persécution, comme ce qu'on a vécu. Donc quand on maîtrise pas la langue, quand on a interprète au téléphone, ça devient encore plus dur et ça en rajoute par rapport aux difficultés de ces personnes. Et on pourrait multiplier les exemples, je peux en donner encore un, c'est la question du niveau de la langue. On prétend mieux insérer les personnes par la langue, sauf que en fait d'insertion, on élève le niveau de langue requis pour que les personnes renouvellent leur titre de séjour. Ça veut dire qu'une personne qui ne va pas suffisamment maîtriser la langue, toujours selon la préfecture, restera avec un titre de séjour annuel au lieu de pouvoir avoir un titre de séjour pluriannuel, voire un titre de résidence. Et tout dans cette loi est à ce niveau-là. Donc c'est un recul sans précédent pour les droits des étrangers et pour les étrangers, quelle que soit leur situation. Et par ailleurs, sur la question des visas, sur la question des personnes en situation irrégulière, bien évidemment là, c'est une loi raciste et xénophobe parce qu'on sait très bien que ça ne vise pas l'ensemble des pays du monde, mais ça vise ceux du Moyen-Orient et ceux d'Afrique, Maghreb ou Afrique subsaharienne, et ceux qui viennent des pays qui ont... ceux qui ont le plus besoin de protection, en réalité, quelle que soit la raison pour laquelle ils fuient leur pays, parce que c'est des personnes qui fuient leur pays et qui ne partent pas volontairement, contrairement à ce que racontent un certain nombre de gens.
Et pensez-vous que nous avons atteint un point de bascule avec cette loi au niveau de la politique française ?
Je ne sais pas si on peut parler de point de bascule, mais une chose de sûre, c'est quand on voit les mesures qui ont été adoptées par le Sénat, puis en commission mixte paritaire, et dont heureusement une partie a été censurée par le Conseil constitutionnel, précision sur la forme et pas sur le fond, donc ça veut dire que ça peut revenir, mais on n'avait jamais atteint ce degré-là d'entorse aux principes républicains, au sens respect des conventions internationales, de la Constitution, des droits fondamentaux. Et c'est des mesures, si on les regarde de près, qui, il y a quelques années, ne se trouvaient que dans le programme du Rassemblement national. Donc c'est pour ça que Madame Le Pen a pu dire qu'elle avait remporté une victoire idéologique. Et quand on voit les députés de la majorité, les députés républicains et les députés du Rassemblement national voter tous ensemble ce type de disposition, dont on sait qu'elles sont contraires aux conventions internationales, ça, quelque part, ça fait froid dans le dos. Alors, pour ne pas être totalement pessimiste, je dirais en même temps, ça a créé un sursaut. Ça a créé un sursaut républicain, comme on dit, et un certain nombre de gens qui ne s'étaient pas mobilisés sur la loi, le projet de loi, depuis qu'il a été adopté, enfin, présenté au Conseil des ministres au mois de février, se sont mobilisés et ont vu qu'il y avait quand même quelque chose, sachant qu'on dit que ce qui peut arriver aux étrangers, ça peut être étendu à d'autres par la suite, quoi. La privation des droits, c'est quelque chose qui peut s'avérer contagieux. Et donc, c'est pour ça qu'on est toujours mobilisés sur ces questions.
Tous les êtres humains naissent libres et égaux.
Un grand merci à toutes les personnes qui se sont exprimées dans cette chronique. Nous espérons que cela vous a donné un aperçu de cette loi, ses dangers et aussi ses conséquences. À très bientôt pour notre prochaine chronique.
Tous les êtres humains naissent libres et égaux.